Interview BO par Benoît Bazerico.
Cinésic remet chaque année au festival Musique et Cinéma de Marseille son prix Cinésic. Pour la cinquième année d'ailleurs, le prix a été remis, attribué à un compositeur ou une compositrice issue de la compétition des courts-métrages français, dans le cadre donc du festival à Marseille qui a eu lieu du 27 mars au 1er avril dernier. Et cette année, 2023, le prix a donc été remis, le prix Cinésic, à Lisa Chevalier. Lisa est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Le prix a été remis à votre court-métrage, le court-métrage pour lequel vous avez écrit la musique, La beauté du geste, de Cyril Carbone. Nous allons évidemment en parler. Avant cela, vous connaître, savoir d'où vous venez, comment on devient compositrice de musique de film. Évidemment, on est avant tout compositrice et donc un parcours voilà, de formation à cela. Vous avez, je crois, au départ un cursus de pianiste. Et ensuite, j'ai lu que vous avez mentionné avoir approfondi des connaissances en cinéma. Voilà, je voulais en savoir plus là-dessus.
Effectivement, j'ai commencé par le piano. Et en fait, j'ai été très tôt intéressée par l'univers du cinéma. J'ai regardé beaucoup de films. Je suis dans une famille qui est assez cinéphile, donc on avait l'habitude de regarder beaucoup de films. Et en fait, très rapidement, j'ai voulu improviser avec le piano en mettant un court-métrage, en jouant par-dessus, en composant, en improvisant. Et en fait, quand je dis que j'ai approfondi mes connaissances, c'est parce que je suis rentrée au lycée. Et là, j'ai voulu découvrir un peu plus l'univers du cinéma. Et j'ai donc intégré la classe de cinéma du lycée. J'ai donc découvert le professeur qui tenait cette classe, Guy Astic, qui pour moi a été très inspirant. Et en fait, on s'est très bien entendu et c'est quelqu'un qui est très passionné par le cinéma. Pour moi, c'était une belle rencontre et on a beaucoup discuté. Du coup, je réalisais beaucoup de petits courts-métrages à cette époque. En fait, depuis le collège, j'aime beaucoup réaliser des petits formats. Et du coup, il m'a donné beaucoup de conseils. On a pas mal discuté. Après, j'ai intégré le Conservatoire Régional d'Annecy dans la classe d'Olivier Militon, en composition pour l'image, du coup, qui était vraiment spécialisée dans ce que je voulais faire. Par la suite, j'ai intégré le CNSMD de Lyon dans la classe de Gilles Alonso.
Et vous avez pratiqué finalement beaucoup de musique pour différents supports, donc films d'animation, de fiction, mais j'ai lu aussi la scène et la danse. Est-ce que pour vous, c'est le même travail ou alors à chaque fois, il y a des spécificités particulières? J'imagine que pour la danse et la scène, il y a une nécessité d'avoir la musique avant le spectacle.
Alors, c'est pas du tout le même travail pour moi, mais par contre, dans mon imaginaire, je trouve que ça se ressemble. Parce qu'en fait, j'imagine beaucoup d'histoires et d'images quand je compose, malgré le fait que ce soit pas du tout pour le cinéma. Quand c'est pour la scène, souvent, j'écris des sortes de mini-poèmes ou des mini-histoires pour m'en inspirer et avoir une trame. Et pour la danse, c'est très différent parce que ça se construit aussi avec les danseurs, avec les chorégraphes. Donc, il y a beaucoup d'aller-retour, puis on voit directement sa musique, l'effet que ça procure du coup sur l'image du danseur. Et inversement, on peut avoir des retours... Donc, c'est assez différent, mais finalement, dans l'imaginaire, je pense que ça fait quand même un lien et que ça appelle au même procédé.
Et en plus, vous avez travaillé sur de la réalité virtuelle.
Alors, c'est vrai que la réalité virtuelle, il y a eu un essor à un moment, de plusieurs années avant, et qui a un peu freiné, je pense, ces dernières années. Et quand j'ai commencé, du coup, à collaborer avec des personnes qui faisaient de la réalité virtuelle, c'était un moment où on se posait beaucoup de questions, justement, sur la spatialisation, jusqu'où on peut aller, en fait. Est-ce que, voilà, quand on bouge pendant qu'on regarde un film en réalité virtuelle, est-ce que la musique bouge aussi? Est-ce qu'elle est associée à certains objets ou à certains personnages dans l'espace? Donc, il y avait vraiment un champ très large qui s'ouvrait avec beaucoup de questionnements et beaucoup d'envie de découvrir, de curiosité. Ça a été très inspirant parce que, du coup, on est complètement plongé dans un univers. Chaque personne, en fait, fait sa propre histoire parce qu'en fonction de où on regarde, on va l'apercevoir différemment. Donc, à la musique, il faut pas trop anticiper. Donc, c'était très inspirant. J'espère qu'il y en aura d'autres.
Et dans votre double passion musicale et cinématographique, est-ce que vous avez des références ou voilà, des goûts particuliers qui vous orientent également dans votre propre musique?
Quand j'ai commencé, j'étais particulièrement fan de l'univers de Danny Elfman et du coup de Tim Burton. Donc, j'étais assez jeune quand j'ai découvert. Et en fait, j'étais fan surtout pour le côté où... pour moi, ils assumaient complètement un monde et un univers qui plaisait pas à tout le monde à l'époque. Et j'aimais beaucoup le fait d'aller à fond là-dedans et en fait de pas trop vouloir plaire à tout le monde. Ça me plaît beaucoup, ce qui est pas trop lisse justement. Et chez Danny Elfman, en fait, j'aimais beaucoup aussi le fait que malgré un dialogue qui peut être classique avec l'utilisation des orchestres et tout ça, il avait un côté aussi très rock qui me plaisait dans la manière dont il utilise les percussions. Il a des inspirations très rock. Par exemple, la BO de To Die For, c'était pour moi, genre l'introduction, elle est géniale et c'est très inspirant pour moi justement à quel point la musique vient rompre un rythme à l'image et en même temps, elle dit beaucoup aussi sur tout le film qui suit. Donc ça a été pour moi une grande référence. Après, bien sûr, au fil des années, j'ai découvert d'autres styles. J'aime beaucoup Lars von Trier aussi. J'aime beaucoup Almodovar aussi, très différent. Mais globalement, tous les cinémas où je sens qu'il y a une personnalité reconnaissable.
Et c'est intéressant parce que Lars von Trier, par exemple, on ne pense pas à lui particulièrement par rapport à la musique, même si évidemment Dancer in the Dark et évidemment Wagner dans Mélancolia. Mais du coup, peut-être que vous vous dites, vous, ah tiens, qu'est-ce que j'aurais fait moi dans son cinéma ?
Oui, complètement. Bah, ce que j'aime beaucoup avec Lars von Trier, c'est justement au début de ses films, il y a souvent cette grande introduction sur des séquences où il mélange beaucoup de choses, la peinture, le texte, qui sont des séquences assez oniriques et où souvent donc c'est accompagné d'une musique qui n'a pas été composée pour mais qui est préexistante. Et je me suis justement déjà entraînée à refaire une musique sur l'introduction de Mélancolia pour essayer parce que je trouve ces introductions très inspirantes.
Alors, avec Cyril Carbone, le réalisateur donc, de La Beauté du Geste, qui a été présenté au Festival de Marseille et qui donc, a reçu ce prix cinésique, la rencontre s'est-elle faite sur le scénario ?
Bah, en fait, avec Cyril, on s'est rencontrés dans le cadre du troisième personnage, donc le dispositif au festival. Et donc, on a, à ce moment-là, j'avais le scénario et on a commencé notre discussion à partir du scénario. Donc, c'est très important de faire ça, je trouve, parce que du coup, on a vraiment avancé en même temps et puis on avance aussi en même temps que l'image, en même temps que le son et on peut faire beaucoup d'aller-retour. Donc, la musique s'inscrit assez naturellement aussi dans les étapes. Et dès le début, en fait, on s'est mis d'accord facilement sur notre vision du film. Il y avait cette idée dans le film d'un équilibre qui traverse l'histoire et je suis arrivée avec des propositions qui mettaient en avant cet équilibre-là et cette idée de souffle aussi pour moi qui était très important. J'imaginais vraiment la BO comme un seul souffle en fait, qu'on peut interpréter comme le dernier souffle ou au contraire le renouveau. Mais j'imaginais vraiment cet élan-là et Cyril avait la même idée avant de se rencontrer aussi, donc ça a très bien matché. Et finalement, on s'est pas tant éloigné des premières propositions. On a affiné forcément.
Ce souffle que l'on peut entendre dans ce titre qui ouvre le court-métrage. Magnifique partition de Lisa Chevalier pour ce court-métrage, La Beauté du Geste. Alors, on parlait du souffle, évidemment, on rentre dans le film ainsi, c'est-à-dire que c'est très délicat, on rentre pas avec fracas, hein, on rentre progressivement, et la musique va ensuite se déployer, et ça passe ce souffle à travers le choix de l'instrument, la flûte. Est-ce que c'était évident, justement, quand vous parliez de souffle avec le réalisateur, du choix de la flûte ?
Pour moi, oui. En fait, il y a un mélange de plusieurs types de flûtes. Il y a de la flûte traversière, il y a de la flûte alto et de la flûte basse, mélangés parfois à des sons aussi électroniques qui se rapprochent énormément du timbre. Et justement, j'avais cette idée de créer un instrument hybride qui ressemble beaucoup du coup à la flûte, mais dont parfois on peut avoir des doutes de par la tessiture d'un coup qui devient très grave. Et justement, c'était important pour moi parce qu'en tant que spectateur, quand on met un instrument acoustique qui est très clair et qu'on peut vraiment identifier rapidement, ça nous rassure. Il y a quelque chose qui est, voilà, on sait où on est en fait, on a des appuis. Et quand ce son est légèrement modifié et qui devient un peu plus une patte qui nous évoque des choses mais qui est moins identifiable, on est du coup dans une sensation d'attente. Le film parle beaucoup du contrôle et du lâcher prise. Et du coup, j'aimais cette idée d'être aussi entre les deux à la musique.
Et il y a l'interprète de cette flûte, la flûtiste Fanny Martin. Son interprétation était aussi importante, j'imagine. Est-ce que elle était présente dès le début, ou alors il y a eu un travail de maquette et ensuite elle a dû interpréter la partition?
Ça a été super de travailler avec elle. Elle est aussi force de proposition, donc c'était génial. Et on a vraiment pris le temps pour le coup, parce que dès les premières propositions, j'avais déjà travaillé avec elle. Sur du coup, j'avais fait un mélange entre maquette et réel enregistrement. Et puis, en fait, on a, quand on a travaillé sur le film, on a fait deux sessions d'enregistrement. Une première qui était plutôt au début du tournage et qui me permettait à moi d'avoir de la matière pour travailler. Donc, on a enregistré beaucoup de souffle, beaucoup d'effets à la flûte, des effets de clé, des effets de percussif aussi. Et après, du coup, j'ai écrit la partition en prenant en compte cette matière-là que j'ai travaillée à côté. Et on a refait un enregistrement cette fois-ci qui était plus écrit, donc avec tous les mouvements qu'on entend de notes et tout ça. Donc on l'a fait en deux fois. Elle a été très présente. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que la flûte basse, par exemple, en fait, elle l'avait depuis très récemment. Et du coup, elle, au tout départ, elle se sentait pas très à l'aise avec. Mais je lui ai dit que justement, c'était parfait parce que je cherchais aussi cette fragilité. Et le fait que tous les sons ne soient pas lisses et que parfois le souffle sorte un peu trop fort, parfois qu'il y ait des formes, voilà, de choses incontrôlées en fait. Et du coup, ça a été génial de travailler comme ça.
La beauté du geste, c'est l'histoire de Charlotte, hein, c'est ce personnage principal, cette jeune femme qui est à la fois opératrice téléphonique dans un centre de prévention au suicide et également professeure de tir à l'arc. Et elle est comme ça partagée entre les deux univers. Y a beaucoup de mystère dans le film qu'apporte justement cette musique. On est au bord du conte avec cette musique, on sort du cadre. Hein, c'est une musique vraiment qui, c'est ça, ça a la richesse, elle sort du, permet d'élargir le cadre du récit. Et puis il y a quelque chose de macabre finalement, de très sombre hein, à travers ces témoignages liés au suicide et le fait qu'elle entend un des témoignages, elle reconnaît la voix, c'était une de ses ex-petites amies, et là, elle reconnexion avec la personne qui, en fait, ne trouve pas aucun problème à avoir ce désir de s'en aller. Donc il y a comme ça ce mystère et en même temps ce côté macabre, et la musique contrarie ce côté macabre. Il y a cette douceur dans la musique.
Bah, c'est vrai que le thème du suicide est très délicat à aborder. Quand j'ai lu le scénario, c'est aussi ce qui m'a plu, c'est que c'était un thème qui allait pas être facile, et du coup, ça m'était aussi du challenge. Et justement, il y avait cet équilibre de ne pas venir sombrer encore plus le film et venir lui apporter des choses trop lourdes, et en même temps, de pas être trop dans la légèreté par rapport au sujet discuté. Donc, il fallait vraiment trouver cet équilibre-là entre les deux. Et c'est vrai que pour nous, la respiration, ça a été un moyen justement d'aborder le suicide avec un autre angle, une autre manière de voir les choses, et en tout cas par rapport au personnage, bien sûr.
Et dans le placement musical, il y a beaucoup, beaucoup de moments sans musique, où justement on est dans une certaine tension, et la musique intervient souvent dans des scènes de tir à l'arc, justement, qui viennent créer un jeu d'équilibre, notamment cette musique, ce passage donc où on voit les cours de tir à l'arc, et puis on entend aussi les cordes de l'arc dans la partition. Donc c'est très très joli, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le côté mélodieux de la flûte qu'on a pu entendre dans le morceau précédent, mais aussi la musique prend en charge toute la dimension sonore de la personne qui tire à l'arc. Est-ce que vous aviez les sons du film pour vous en inspirer ?
Au tout début, j'avais déjà fait une proposition qui allait dans ce sens-là. Et justement, là, ce qui a été intéressant, c'est que comme je l'avais fait en amont, Cyril a pu vraiment, pendant le montage image, utiliser déjà les sons que j'avais pour jouer entre cette ambiguïté, en fait. Ce qui était intéressant dans cette séquence, c'est que ça faisait davantage appel du coup au cauchemar, au rêve, donc à quelque chose aussi d'ailleurs. Donc il fallait en même temps utiliser les codes du cauchemar, on va dire, donc à amener quelque chose de plus effrayant malgré que ce soit des flûtes toujours, et rester aussi dans cet élan et dans ce souffle qui traverse le film. On a fait beaucoup d'allers-retours entre montage image et du coup proposition musicale pour réussir à avoir cette ambiguïté là.
Et le réalisateur Cyril Carbone, j'ai lu qu'il avait été ingénieur du son et il a aussi composé la musique d'un de ses courts-métrages en 2013, Triste et normal. Donc il savait maîtriser ce sujet du son et de la musique. Le dialogue était plus évident à ce niveau-là?
Oui, ça s'est passé de manière très lisse. Après, je dirais pas que c'est plus évident dans le sens où quand je travaille avec des réalisateurs qui n'ont pas justement eu des expériences musicales, en réalité, en fait, avec les mots, je trouve que c'est suffisant aussi pour pouvoir parler de musique, en fait. Et souvent, justement, les termes qu'on peut employer, les évocations en utilisant certains mots plus que d'autres, m'aiguillent beaucoup. Et ce qui a été chouette justement avec Cyril, c'est que malgré son bagage de musicien, il restait quand même sur ces mots-là et sur m'aiguiller sans trop rentrer dans les termes techniques. Donc ça, c'était très agréable pour ma part. Et dans le film, justement, il compose la musique additionnelle lorsque Lucille danse, donc la musique qui passe sur les enceintes.
La chanson.
Voilà, exactement. Donc la chanson, c'est Cyril qui l'a composée à la base, guitare et voix.
Oui, il y a cette chanson Queen of Pain, écrite par le réalisateur, chanson donc originale, hein, donc il y a cette envie que tout soit sur mesure, quelque part.
Oui, complètement. Pour lui, cette chanson, c'était vraiment un pivot dans le film parce qu'elle arrive à un moment où, en fait, pour la première fois, on sent une réelle séparation physique à l'image, d'ailleurs, les deux personnages se séparent. Et c'est le moment où il y a ce désaccord qui prend le dessus et c'est le moment où le personnage principal va, du coup, aller davantage dans le lâcher-prise en choisissant finalement de ne pas connaître la suite concernant son ami et de savoir la décision qu'elle a prise. Il m'a aussi demandé d'avoir un regard sur les choix, parce qu'il avait par exemple à la base beaucoup de voix différentes, beaucoup d'harmonisations différentes. J'ai un peu fait ma recette avec ça. J'ai enlevé certaines choses, j'ai mis en avant d'autres choses. On a fait des allers-retours sur ce mixage-là. C'est agréable de mixer une chanson qui n'est pas de soi aussi, parce que du coup, on a une forme de lâcher-prise justement sur les aspects vraiment techniques, voilà, musicales, et on se concentre uniquement sur le son et sur mettre en avant notre interprétation, en fait, des pistes que l'on reçoit. Donc c'était très agréable.
Et cette jeune femme qui est tourmentée, la musique joue aussi la représentation de son trouble avec une partie de sound design, hein, notamment un moment où on entend des acouphènes, et c'est vous qui les avez composés.
Oui, c'est ça. En fait, l'acouphène, donc le tout premier son qu'on entend, c'est un réel acouphène, donc le monteur son a choisi. Et en fait, je suis partie de ce premier son pour ensuite l'amener sur les timbres de flûte. Donc en fait, j'essaie d'imiter l'acouphène avec des flûtes qui de plus en plus, en fait, viennent s'ouvrir, donc dans les fréquences, qui viennent ouvrir un panel beaucoup plus large. Et en fait, c'était une manière aussi de plonger complètement le personnage principal dans ses tourments, justement. Et que de cette acouphène, en fait, finalement, elle plonge complètement dans cet univers musical et elle n'a en tête que Lucille, que cette histoire. Et c'est justement à cause de ça qu'il y a une voiture qui s'arrête tout juste quand elle traverse. Mais justement, c'était intéressant de jouer sur la perception sonore. Je pense que c'est un moment peut-être qu'on ne conscientise pas en regardant le film. On ne se dit pas « Ah tiens, ça devient une flûte ». Mais par contre, ça joue sur notre perception par rapport au personnage et à l'évolution de son histoire.
Vous avez senti avec des réalisateurs, Cyril Carbone ou même d'autres, a peur que la musique prenne trop de place et vous, votre rôle est un rôle presque de pédagogie, de rassurer finalement l'artiste.
Comme souvent, j'ai quand même eu la chance de commencer les collaborations dès le début, dès le scénario. Je trouve que c'est plus simple de discuter de la place musicale dès le début parce que du coup, on est concentré sur pourquoi est-ce qu'on utilise de la musique, quel est son rôle, comment est-ce qu'elle peut s'inscrire et prendre du sens en fait dans tous ces éléments cinématographiques. Et du coup, la direction est plus naturelle et en fait, le réalisateur projette déjà l'équilibre qu'il va trouver. Et justement, en fait, après, on dose tous les deux cet équilibre-là, ce qui fait qu'il y a rarement arrivé à l'image la peur de se dire « mince, en fait, la musique prend toute la place parce que ça a été réfléchi vraiment en amont ». Par contre, c'est vrai que lorsqu'on arrive sur un montage image qui est déjà présent, un montage son déjà présent, là, la musique peut avoir plus de mal à trouver sa place. De manière générale, j'aime beaucoup jouer sur les sons, la sonorité enregistrée, les flûtes proches, ça a créé une intimité, on entend beaucoup plus de sons de l'interprète aussi, du coup, qui crée une forme d'humanité. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus de films n'ont pas besoin de thèmes. mais ont besoin de couleurs, de sonorités, et vont plutôt chercher un élément sonore reconnaissable. Voilà.
Et dans différents courts-métrages, vous avez pu explorer différentes directions. Plage interdite de Rodrigo Souza en 2017, là c'est l'orchestre.
Ah oui, c'était il y a longtemps. Oui, effectivement, là c'était donc dans ce court-métrage. Il jouait vraiment, c'est assez parodique où en fait on suit des personnages sur une plage et qui se font attaquer par les parasols à cause du vent qui commence en fait à rouler et à venir sur la plage. Donc les personnes peuvent se prendre les pics de parasols et du coup c'était une forme de parodie sur les films d'horreur, les films d'action, mais justement transféré sur cette plage-là d'été avec un parasol. Et il fallait que ce soit épique du coup. Il fallait vraiment rendre ce parasol effrayant et c'est pour ça du coup qu'on a plutôt utilisé l'orchestre et des gros ensembles avec beaucoup de percussions.
Et dans le court-métrage, évidemment, l'économie est souvent très faible. J'imagine que ce n'est pas un vrai orchestre.
Non, là c'était pas un vrai orchestre. Effectivement, on utilise beaucoup de maquettes. Au plus possible, j'essaie d'enregistrer quand même les musiciens, en tout cas d'enregistrer une partie des musiciens, même si c'est pas tout le monde. Là, donc dans le film de Rodrigo, il me semble que j'avais enregistré quand même des cordes, des voix, mais effectivement, j'ai pas pu enregistrer tout le monde, mais on essaie au maximum parce que ça apporte une âme différente, une autre sonorité, et le travail est différent. J'aime beaucoup aussi avoir le regard des musiciens sur les partitions, des fois sur le film, parce que parfois ils peuvent jouer aussi avec le film sous les yeux, mais d'avoir leur regard et leur interprétation parce qu'ils ont forcément des connaissances de leur instrument beaucoup plus larges que ce que je pourrais avoir. Donc, c'est toujours mieux d'enregistrer.
Et puis sur Into the Wine, réalisé par World Wine Women, c'est un collectif, j'imagine. C'est un documentaire sur la route. Et là, alors là, vous avez vraiment pratiqué la musique jazz manouche avec une présence vocale. Il y a un aspect voilà traditionnel. C'est en vous ça, ou vous avez écouté, vous êtes documenté en écoutant des morceaux?
Moi, je suis vraiment très curieuse de manière générale dans les musiques, dans tout. Et j'aime beaucoup découvrir des nouvelles sonorités, des nouveaux instruments, des nouveaux interprètes. Du coup, la musique du monde, comme on l'appelle largement, c'est quelque chose, enfin, c'est un univers qui me parle énormément. J'aime beaucoup écouter des musiques de ce qui se fait ailleurs, de voir justement comment utiliser des instruments autrement et de voir, en fait, la musique est immense, elle n'a pas de limite et on peut faire tellement de choses avec. Je me renseigne beaucoup. Par exemple, j'avais vu aussi des vidéos de festivals où ils créaient des instruments avec de la glace et d'écouter les sonorités. En fait, je trouve ça hyper intéressant, tout ce qu'on peut faire. Et donc là, pour Into the Wine, comme dans le film, on suit en fait des filles en van qui font un tour de plusieurs pays différents. J'ai justement choisi de travailler avec des musiciens qui venaient d'endroits différents et qui avaient des instruments traditionnels avec eux. Et du coup, de travailler avec tous ces musiciens-là sur un mélange en fait d'instruments traditionnels. Mais ça a été un mélange en fait de beaucoup d'interprètes qui avaient chacun des ressources énormes et inspirantes.
Et puis dernier exemple pour voir un peu voilà toute votre large palette, tu vas t'y faire en 2018, court-métrage de Mélissa Godet, et on peut y entendre cette guitare. Très belle guitare pour ce court-métrage, Tu vas t'y faire, de Mélissa Godet, donc votre composition Lisa Chevalier. Et c'est, alors je ne sais pas comment l'expliquer, mais évidemment c'est un autre instrument que la flûte dans La beauté du geste, mais je ne sais pas, j'ai l'impression voilà que je ressens que ça vient de la même personne. Mais il y a une manière voilà d'écrire voilà qui est cohérent.
Et c'est vrai que dans les deux, il y avait une intimité, une proximité. C'est deux histoires qui sont voilà qui sont très particulières et il fallait vraiment qu'il y ait peu d'instruments. que ce soit qu'on se sente proche des personnages. Et c'est vrai que là, la guitare, un peu comme la beauté du geste, du coup, quelque part. Mais il y avait cette idée que c'est un instrument qu'on joue plutôt en petit comité. Et du coup, qui a amené justement cette proximité avec les personnages.
Et plus largement, dans cette activité de compositrice de musique de film, qu'est-ce qui vous passionne le plus ? Est-ce que c'est justement la collaboration, le dialogue, c'est la rencontre, c'est l'image, le souci justement de correspondre à une image, un récit, une narration, un personnage ?
C'est un peu l'ensemble de toutes ces choses-là. Chaque film, chaque réalisateur, chaque projet est tellement particulier, tellement personnel, tellement inspirant qu'en fait, c'est un monde et un métier, en fait, où il n'y a jamais de routine. On est tout le temps en train de découvrir de nouvelles choses, de chercher des nouvelles choses et de vivre aussi des nouvelles choses. Pour moi, la musique, c'est comme un acteur, en fait, qui va montrer une facette de ce qu'on ne voit pas à l'image. Et du coup, quand je commence un projet, j'aime vraiment prendre le temps de m'en imprégner, de le ressentir et justement d'être à l'écoute aussi de toutes les personnes sur ce projet, de leur version de l'histoire, d'échanger, de... Pour moi, creuser en fait les personnages, l'histoire, de regarder les lumières, les couleurs, tous ces éléments-là qui vont en fait m'emporter dans un monde et un univers. Du coup, de pouvoir comme ça changer d'univers, changer de monde et découvrir à chaque fois beaucoup de choses et beaucoup de visions artistiques, ça me plaît énormément.
Très bien, Lisa Chevalier, sur ces quelques mots, on va se quitter là-dessus. Eh bien, bonne continuation. Je vous souhaite vraiment le meilleur dans la musique de film. On se quitte sur un nouvel extrait de La beauté du geste. Merci, Lisa Chevalier.
Merci.